Vous faites bien de suivre la 103.8 FM, la voix de l'Alama, émettant depuis Alada Donou. Le journal, c'est maintenant. Le Canada a évalué sa collaboration avec le Bénin. La délégation canadienne se réjouit de cet accord bilatéral et le Bénin en gagne davantage. Sur quelle base faire le choix de série au second cycle dans l'enseignement secondaire? Des gens du secteur se sont prononcés, vous les écouterez au cours de cette édition. On parlera aussi dans cette édition de la formation continue de perfectionnement que suivent depuis ce lundi matin des enseignants du secondaire par le truchement de l'ONG Zedaga. Et puis vers la fin de l'édition, vous suivrez en page invité Mukaram Kosoko par rapport à ce déjeuner offert par l'ambassadeur du Japon près le Bénin. En voilà donc pour le sommaire. Vinyle Agbohozo est à la mise en onde devant ce micro Kikiliojo. Encore une fois, merci et bienvenue dans l'édition. On connaîtra bientôt les candidats admis au brevet d'études du premier cycle, mais le choix de série au second cycle devient un casse-tête pour des apprenants. Faire un mauvais choix de série est souvent synonyme d'échec certain. Pour certains parents, l'apprenant doit choisir sa série selon ses aptitudes. Par contre, pour d'autres, le choix de la série de l'enfant doit répondre au projet du parent.
Je pense que l'élève doit être en mesure de choisir la série ou la filière qu'il doit faire lui-même. Bon, les parents peuvent proposer et l'élève va accepter. Mais s'il se sent capable de faire cela, il peut y vaguer. Mais s'il sent qu'il n'est pas capable de faire ça, en tout cas l'élève doit choisir en fonction de sa capacité, quoi.
Moi, je n'ai pas de choix à faire aux enfants. Parce que bon, les enfants aussi savent dans quelle matière ils travaillent. Donc, si on de faire série B maintenant, s'ils ne se donnent pas la lecture, bon, c'est des séries que, bon, ce ne sont pas comme des mathématiques. Donc, si la personne n'arrive pas à lire, donc ça va lui causer des problèmes. Après, l'enfant va dire que c'est ma maman qui m'a dit de choisir B. J'ai choisi B, maintenant ça n'a pas marché. Donc, selon moi, je laisse le choix aux enfants.
C'est possible que les parents interviennent d'une manière ou d'une autre dans le choix de la filière de leur enfant. Mais de l'autre côté aussi, ce n'est pas préconisé. Tant est que les parents ne connaissent pas les aptitudes de leur enfant, ce serait quand même dommage qu'ils leur conseillent des filières dans lesquelles ces enfants ne sont pas à même de s'en sortir. D'où, on demande aux enfants quels sont leurs intérêts. Donc ce que je préconise, c'est que les parents pourraient quand même être amenés à poser à leurs enfants ces questions-là. Quels sont vos intérêts? Qu'envisagez-vous faire à l'avenir? D'accord? Et par rapport aux résultats scolaires antérieurs de leurs enfants, ils seront à même de décider, ou du moins de dire si oui ou non, ces enfants ont les aptitudes prérequises pour effectivement faire ces filières qu'ils souhaitent faire.
Bientôt les résultats du BPC et en prélude à la rentrée prochaine, l'orientation des enfants doit être une préoccupation sérieuse, mais qui tient compte fondamentalement des résultats que l'enfant a obtenus. Souvent, on a tendance à orienter les enfants en fonction des projets que les parents ont.
Que sont devenus l'alphabétisation et la promotion des langues nationales si on sait que le défi que s'est imposé le chef de l'État dès son arrivée au pouvoir est de construire un Bénin sans analphabète? En dépit de la création d'un ministère pour cette cause linguistique, le projet a toujours du plomb dans l'aile puisque le budget alloué à ce sous-secteur de l'alphabétisation est de plus en plus revu à la baisse. Suivez quelques spécialistes du domaine qui pensent que c'est un pan du développement que l'État est en train de laisser.
Le budget du sous-secteur de l'éducation, du secteur de l'éducation alloué au sous-secteur de l'alphabétisation demeure encore de moins de 1%. Ce qui, pour nous, est pratiquement un drame, parce que lorsque vous observez ce budget, de 2009 à 2016, est allé décrescendo. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'en 2009, ce budget était de 0,49%. Et il se trouve qu'en 2016, il est de 0,16%. C'est pas normal. C'est pas normal parce qu'il s'agit de plus de 63% de la population. C'est 63% d'analphabètes. Et pire, on peut se poser la question si ce domaine de l'alphabétisation est une priorité pour l'État. Mais nous nous accordons avec l'État et les membres du gouvernement toutes les fois quand ils parlent que c'est un domaine de priorité, puisqu'ils n'ont jamais cessé de le dire. Seulement dans les faits, on n'observe pas ça.
Pour la jeune féminine, l'alphabétisation, c'est un appui pour pouvoir permettre à la femme de s'épanouir dans ses activités. Quand je dis ça, je pense aux femmes qui ont accès, par exemple, au microcrédit. L'alphabétisation est cruciale, par exemple, pour ce programme, pour permettre à ces femmes qui ont accès à ces microcrédits quand même d'être aussi autonomes. Donc, selon moi, l'alphabétisation pour la jeune féminine est un appui social pour aider la femme à s'autonomiser davantage. C'est un sous-secteur très crucial. Mais du fait que c'est inséré dans l'éducation, c'est un sous-secteur qui est orphelin. Donc, on est en train de mener présentement des séances de plaidoyer pour amener l'État, le gouvernement, à augmenter de façon légèrement, selon l'UNESCO, normalement, le budget alloué à ce sous-secteur.
La difficulté majeure aujourd'hui se situe au niveau du budget alloué au sous-secteur de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales. Ce budget n'évolue pas. Et il y a une constante que nous avons remarquée au niveau de ce budget, c'est que le budget évolue progressivement et de façon constante vers le bas.
Des enseignants du secondaire suivent depuis ce lundi matin une formation continue au Centre de formation professionnelle et de perfectionnement d'Alada. L'objectif de ce séminaire organisé par l'ONG Zedaga en collaboration avec des formateurs suisses est de renforcer les capacités des enseignants du cours secondaire, surtout en pédagogie. Magloire Coco, représentant résident de l'ONG Zedaga.
C'est une formation pour renforcer les capacités des enseignants qui partagent leurs connaissances avec nos enfants, nos frères et sœurs, dans les collèges et lycées techniques du Bénin. Cette formation est issue d'une question, puisque je fais partie aussi d'une association, l'association Solidarité avec le village du Bénin, qui ne fait que construire des salles de classe depuis environ 20 ans. Et à un moment donné, nous sommes posé la question de savoir, mais en réalité, quelle est la qualité de la formation qui se donne dans ces salles de classe que nous construisions. Et c'est cette question qui a donné naissance à ce renforcement de capacités, en fait, que nous sommes en train de faire avec les enseignants. Il s'agira pour cette formation de mettre à disposition de ces enseignants, de ces environ quarantaine d'enseignants que nous avons, des matériels didactiques, leur donner aussi des connaissances en pédagogie pour pouvoir tenir nos frères et sœurs dans les matières, dans les disciplines indiquées par l'éducation béninoise, à savoir les mathématiques, les sciences physiques, la SVT, l'histoire géo, français, allemand, et j'en passe.
Pierre Pétina, enseignant des SVT en Suisse et cofondateur de l'association, et Pascal Emery, directeur retraité du Collège et École de Commerce à Genève en Suisse, sont tous deux formateurs.
Depuis un peu plus d'un an, nous avons mis en place une série de modules visant au renforcement des capacités des enseignants béninois. Non pas pour leur changer la manière d'enseigner, puisque ça ne nous concerne pas et nous n'avons pas à juger, mais plutôt pour leur permettre d'avoir accès à des ressources didactiques et à une formation didactique sur la base de documents qu'ils n'auraient pas l'occasion de trouver, notamment à cause du manque de connexion Internet et de ressources informatiques, choses qui, chez nous en Suisse, sont très courantes. Alors, la formation va se dérouler toute la semaine, donc du 6 au 10 juillet, avec une remise d'attestation le samedi 10 juillet. Et chaque journée sera dédiée à des ateliers par groupe de discipline visant justement à avoir un entretien privilégié avec un petit nombre de maîtres de manière à pouvoir les aider de la manière la plus personnelle possible. Tout a été fait sur la base de doléances qui nous ont été transmises via notre antenne locale et qui répondra, je l'espère, le plus précisément aux attentes des enseignants de la région.
L'aventure ne s'arrête pas là. L'idée de base est qu'on continue ensuite à pouvoir nourrir les bases données, nourrir les besoins et les demandes pédagogiques par des apports continus en matériel pédagogique, en matériel didactique. Alors l'idée aussi, c'est que on s'engage dans un processus où la formation est pérenne et on réfléchit actuellement à une solution permettant aux enseignants d'accéder à de la formation continue sans forcément devoir attendre notre visite biannuelle.
Retenez que cette formation va durer une semaine. La dissolution sans explication autour de l'inspection générale de l'État par le gouvernement inquiète plus d'un Béninois. Pour eux, l'instance qui fonctionnera en lieu et place de l'IGE devra faire beaucoup pour la volonté du chef de l'État à assainir la gestion des sociétés publiques. L'instance doit être autonome et constituée de personnes honnêtes, impartiales et jouissant d'une bonne moralité.
On va faire une enquête quelque part, il faut publier le résultat. Et quand on publie le résultat, la population sait que l'IGE est allé dans telle direction d'État, dans tel ministère, et voilà le résultat. Chacun sait de quoi s'en tenir. Mais quand on ne publie pas le résultat, on ne veut pas qu'on sache ce qui s'est passé. Ça veut dire qu'on protège les gens, en quelque sorte.
Je crois que ce n'est pas des cadres jeunes, d'accord, en audit et en contrôle qui manquent. Il faut vraiment les utiliser et les responsabiliser pour qu'ils aient la main libre à décider, qu'ils soient vraiment impartials pour décider donc du sort des dossiers de malversation que nous connaissons dans notre pays pour un vrai développement de notre pays.
L'inspection générale de l'État doit inspecter, doit auditer et contrôler comment la gestion des finances publiques, comme la gestion des administrations de nos sociétés d'État et les services publics sont gérés. Alors, l'inspection générale d'État doit avoir une indépendance totale, même financièrement, et que des moyens adéquats soient mis à la disposition de cette structure pour bien travailler. Alors, si nous voulons revenir sur la moralité, la vertu de ces gens qui vont composer, je pense qu'il faut avoir des gens qui doivent remplir certains critères, à savoir l'honnêteté. Il doit être très honnête, il doit être d'une bonne moralité, et aussi doit être impartial. L'impartialité doit aussi être l'un des critères fondamentaux pour sélectionner. Alors, les attentes, c'est que lorsque l'inspection fait son rapport, il faut que ce soit un rapport qui, même en profondeur, peut donner le vrai visage de leur mission, de l'enquête qu'ils ont menée.
L'IGE, l'inspection générale de l'État, vous savez, doit être normalement une institution qui doit être autonome. Elle doit engager elle-même ses enquêtes et non être suscitée par un autre pouvoir plus fort. L'IGE doit pouvoir mener ses enquêtes en toute sérénité. On doit lui donner les moyens d'agir et surtout de faire en sorte que les enquêtes aboutissent. Parce que l'image qu'on aurait retenue de l'IGE sortante est que, bon, il y a plusieurs commissions d'enquête qui ont été mises sur pied. On n'a pas eu les résultats escomptés. Donc, nous espérons bien que la nouvelle IGE donnera des résultats probants pour que vraiment on sache que ça soit un organe craint et qu'il ne faut pas faire du n'importe quoi avec les ressources de l'État.
Voilà qui nous amène hors de nos frontières. Le président algérien Abdelaziz Bouteflika a affirmé hier qu'il souhaitait finir son 4e quinquennat, conquis l'année dernière malgré ses problèmes de santé découlant d'un AVC qui a affecté ses capacités de mobilité et d'élocution. Vous avez été nombreux à m'interpeller pour que je poursuive la mission dont vous m'avez déjà honoré 3 fois et j'ai répondu à cet appel acceptant ce sacrifice malgré ma condition. Condition physique actuelle, a écrit Bouteflika, 78 ans, dans un message délivré à l'occasion de la fête de l'indépendance. Je rappelle que l'Algérie a obtenu son indépendance le 5 juillet 1962. Des femmes kamikazes se sont fait exploser au milieu de villageois en fuite dans la banlieue de Maïdougouri, dans le nord-est du Nigeria, où de nouveaux combats ont opposé l'armée au groupe islamiste Boko Haram. Boko Haram s'est mis à envoyer des femmes kamikazes qui se sont mêlées aux résidents de Maïdougouri en fuite et ont déclenché leur explosif en plein milieu d'eux, a raconté un témoin. D'après lui, les islamistes ont ensuite mis le feu à quasiment la moitié du village, dans le marché et les échoppes qu'ils avaient pillés auparavant. C'est alors que seraient arrivés des renforts militaires de Maïdougouri. En plein Ramadan, le Nigeria, avec plus de 200 personnes tuées par Boko Haram en 3 jours, vit sa pire semaine depuis que le nouveau président Muhammadu Buhari a pris ses fonctions. La vague d'attaques qui a débuté mercredi soir a touché plusieurs villages et l'état de Borno, épicentre de l'insurrection islamiste, désormais affilié au groupe État islamique. Je vous l'annonçais dans les titres, l'ambassadeur du Japon près le Bénin a offert aux hommes de la presse un déjeuner. Il a abordé quelques aspects. La voix de la Lama est représentée en ce lieu par Mukaram Kosoko ici présent. Alors beaucoup d'aspects ont été abordés, parlez-nous-en.
Et vous voyez pour le compte donc de ces différents projets, au total au nombre de 6, il faut dire que celle ou celui plutôt qui retient plus notre attention, c'est celui-là qui porte sur la construction de l'hôpital de zone de la commune d'Alada et environ.
Effectivement, c'est ça qui nous concerne. Qu'est-ce qui a été dit par rapport à ce projet?
Justement, vous savez, c'est un projet qui fait couler beaucoup d'encre, beaucoup de salive. Et vous savez, il n'y a pas si longtemps, courant 2015, plus précisément au mois d'avril dernier, le chef de l'État, avec une forte délégation, était donc à Ayou pour annoncer la chose. C'était pour la pose de la première pierre. Tout a été dit un peu comme si cela devrait commencer le 19.
Le 19 avril.
Vous
oui.
voyez, le 19 avril, si mes souvenirs sont bons. Mais là, nous avons constaté que c'était vraiment du fiasco. Jusqu'à l'heure où nous parlons. Mais là, l'ambassadeur du Japon près le Bénin, son excellence Daini Sukara, nous a confié que les activités démarrant, plus précisément vers mi-décembre 2015, et pour durer 18 mois. Il faut préciser déjà que il y a des appels d'offres qui sont lancés au Japon pour pouvoir retenir ces entrepreneurs là qui vont suivre l'activité, la construction donc de cet hôpital de zone qui va couvrir Alada, Tofo, Zé. Vous voyez un tout petit peu. Et là, par rapport donc au coût, nous lui avions demandé, mais il n'y a pas encore de précision là-dessus parce que c'est encore en train d'être peaufiné. Vous voyez, et là, il n'a pas pu nous donner une précision sur le montant qui est retenu définitivement pour dans le cadre donc de la construction de cet hôpital. Mais tout est que déjà au mois de décembre, les populations de ces différentes communes peuvent déjà s'attendre à quelque chose parce que là, c'est de sources fiables et là, l'ambassadeur c'est vrai que nous avons vécu d'autres choses par le passé.
Ce qui me fait rire, c'est que on peut se demander sur quoi le chef de l'État s'est basé pour lancer et dire que le 19 avril, ça va démarrer.
Bon, justement, vous savez, l'ambassadeur nous a confié que
un écart de plusieurs mois, c'est beaucoup.
Justement, lui n'en est pour rien, il n'en est pour rien. Et ce qu'il a à nous confier, c'était juste pour nous dire que ça démarre en décembre. Et là, il n'était pas venu aussi. On avait remarqué son absence
le jour
donc de la pose de pierre. C'était que l'invitation lui était parvenue un tout petit peu tard, et ça a fait qu'il n'a pas pu se décider. Et il dit bon, vous savez, votre chef de l'État, lui, il est en hélicoptère. Je ne pourrais pas répondre quand c'est venu en retard pour que je puisse répondre à Alada. Donc, il n'a pas pu faire le déplacement parce que l'invitation qu'on lui avait adressée, lui, était parvenue un tout petit peu en retard alors qu'il avait d'autres activités, vous voyez, dans la même période. Donc, on peut être en train de se frotter la main par rapport donc à cette nouvelle-là.
C'est ça.
Et nous croyons sur la bonne foi de cette coopération bénino-japonaise pour une bonne suite. Donc, c'est un truc qui doit venir encore rehausser l'image donc de notre zone, de notre zone sanitaire. Et là, ça permettrait vraiment que les cas dont on évacue, vous voyez, sur Abomey-Calavi, alors que les gens peuvent décéder sur la voie, ça permettrait, c'est surtout par rapport à cette question de développement là que nous voyons déjà à travers ce joyau que va nous offrir le Japon bientôt. Donc ça fait que ça permettra vraiment de désengorger un tout petit peu tout ce que on pourrait dire retrouver peut-être en termes d'accidents ou en termes de soins beaucoup plus intensifs. arrive parce que notre hôpital qui est là n'arrive pas à contenir
tout à fait.
Les malades, on est obligé d'évacuer. Vous voyez,
Moukaram, voilà le point important qui nous concerne. Certainement, il y a eu d'autres points encore intéressants. À part la construction de cet hôpital de
justement,
zone.
Justement, il y a près de 5 autres points, notamment le projet de construction d'école primaire phase 5. Et cette phase 5, il faut dire que cela a démarré depuis un bout de temps, depuis près de 3 ans. C'est vrai que nous avons vécu d'autres choses par le passé.
Ce qui me fait rire, c'est qu'on peut se demander sur quoi le chef de l'État s'est basé pour lancer et dire que le 19 avril, ça va démarrer.
Bon, justement, vous savez, l'ambassadeur nous a confié que, bon, là, lui...
Un écart de plusieurs mois, c'est beaucoup.
Justement, lui n'en est pour rien, il n'en est pour rien. Et ce qu'il a à nous confier, c'était juste pour nous dire que ça démarre en décembre. Et là, il n'était pas venu aussi. On avait remarqué son absence
lors
de la pause de pièce. C'était que l'invitation lui était parvenue un tout petit peu tard. Et ça a fait qu'il n'a pas pu se décider. Et il dit, bon, vous savez, votre chef de l'État, lui, il est en hélicoptère. Je ne pourrai pas répondre quand c'est venu en retard pour que je puisse répondre à la date. Donc, il n'a pas pu faire le déplacement parce que l'invitation qu'on lui avait adressée, lui, était parvenue un tout petit peu en retard alors qu'il avait d'autres activités, vous voyez, dans la même période. Donc, on peut peut-être être en train de se frotter la main par rapport donc à cette nouvelle-là.
C'est ça.
Et nous croyons sur la bonne foi de cette coopération bénino-japonaise pour une bonne suite. Donc, c'est un truc qui doit venir encore rehausser l'image donc de notre zone, de notre zone sanitaire. Et là, ça permettrait vraiment que les cas dont on évacue, vous voyez, sur Abomey-Calavi, alors que les gens peuvent décéder sur la voie, ça permettrait, c'est surtout par rapport à cette question de développement là que nous voyons déjà à travers ce joyau que va nous offrir le Japon bientôt. Donc ça fait que ça permettra vraiment de désengorger un tout petit peu tout ce que on pourrait dire retrouver peut-être en termes d'accidents ou en termes de soins beaucoup plus intensifs parce que notre hôpital qui est là n'arrive pas à contenir les malades, on est obligé d'évacuer. Vous voyez.
Voilà le point important qui nous concerne. Certainement, il y a eu d'autres points plus encore intéressants à part la construction de cet hôpital de
justement,
zone.
Justement, il y a près de 5 autres points, notamment le projet de construction d'école primaire phase 5. Et cette phase 5, il faut dire que cela a démarré depuis un bout de temps, depuis près de 3 ans comme cela. Et là, déjà au plan national et dans plus de 40 communes ont été, plutôt au nord, je veux parler du nord, il y a 203 salles de classe qui ont été déjà construites et là-dessus, il y a encore 207 en vue d'être construit, surtout au niveau donc du département de la Donga, où vous savez au sud ici beaucoup de salles ont été déjà construites. Et, l'année 2015 ou 2014, la commune de Zé en a bénéficié, toujours dans le cadre de cette coopération bénino-japonaise. C'est l'arrondissement de Rekamen qui a bénéficié donc de cette construction de salles de classe. Le Japon continue quand même de faire des efforts, mais pour ce qui est des 207 salles de classe qui vont être construit et pris en charge pour ces années 2015-2016. Ça va concerner plus le nord, notamment le département de la Liborie et de la Donga. Vous voyez un tout petit peu où on pourrait retrouver ces différentes constructions. Et là, il y a également les projets d'assainissement en eau potable des communes de Glazoué et de Dassazoumé. Vous voyez, c'est un tout petit peu loin de nous.
De nous,
alors que nous avons quand même demandé à l'ambassadeur si les communes du sud ne sont pas concernées. Il nous a dit de patienter. Vous voyez,
on va patienter
pour que cela puisse en arriver. Il y a une aide, financière non remboursable pour les projets locaux contribuant donc à la sécurité humaine. Vous voyez, près de 50 millions disponibles dans ce cadre-là. Si il y a des communes qui ont donc de ces projets, elles peuvent les envoyer au niveau de l'ambassade du Japon pour que cela puisse, bien sûr, aider à développer développer le milieu. Bon, il nous a parlé également de la célébration du 10e anniversaire du bureau de la JICA. Vous savez, la JICA, c'est une branche armée donc qui mène vraiment les activités des Japonais sur place ici.
Et nous en avons connu.
Ça, voilà, vous voyez, donc ça fait qu'il y a déjà le 25 juin dernier, il y a eu ce 10e anniversaire là qui a été célébré. Il nous a parlé un peu de comment cela s'est passé et on lui a demandé quand même si, parce qu'au Bénin, vous savez, la culture japonaise n'est pas trop représentative, il faut quand même penser à créer quelque chose dans ce sens-là pour que...
Pour être visible.
Voilà, pour rendre tout cela visible et que le brassage puisse être... Le brassage se fait déjà parce que dans les communes, vous savez, Alada bénéficie également des volontaires japonais.
Tout qui à fait, viennent comme Tofo également. Oui.
Comme Tofo, voilà. Et je ne sais pas si je sais, je ne les vois pas trop à Zé.
Je
ne les vois pas trop à Zé, ni à Tori. Mais à la date au fort, ils sont présents.
Tout à fait.
Et ils organisent également à chaque fin d'année des tournois de
Activités sportives.
Voilà, des activités sportives, oui. Et qu'ils soutiennent régulièrement. Je crois que si tout va bien et que les choses vont comme cela se doit, on doit pouvoir également bénéficier d'un certain nombre de choses au niveau de nos différentes communes au sud ici en matière culturelle.
Nous l'espérons.
Voilà. Cela s'était bien passé et là-dessus, voilà un peu ce qu'on pouvait un tout petit peu retenir. Et le Japon travaille déjà dans 40 communes au Bénin.
Mm-hmm.
Vous voyez, ce n'est pas peu. Sur 77, ils sont présents dans 40 communes avec les différentes activités qu'ils mènent. Ils envoient les volontaires japonais dans ces communes-là afin de pouvoir travailler de façon délibérée, d'accompagner dans les différents secteurs, surtout le renforcement des capacités. Voilà un tout petit peu les axes sur lesquels travaille le Japon. Le renforcement des capacités, l'appui donc en infrastructure, non. Quand je veux parler d'infrastructure, routière,
voilà.
Non, mais pour ce qui est donc du renforcement des capacités, je veux parler de la santé.
Mm-hmm.
Voilà les deux axes prioritaires sur lesquels le Japon travaille plus avec le Bénin.
Ram Kosoko, espérons que tous ces projets aillent à leur terme pour le bien-être de tous les Béninois.
Justement, c'est le souhait.
Voilà. Et c'est sur ces mots, nous allons mettre un terme à cette édition du journal Parler. Vinil Agbukhozo a assuré la mise en onde. Kiki Liodjo à la présentation. Retrouvez-nous pour une nouvelle édition de journal Parler. Portez-vous bien, le programme se poursuit sur votre radio.